En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Un petit mot d'abord, les organisateurs ont voulu dédier ce débat à André Braik, l'un des plus grands astrophysiciens du monde. Il a participé à la précédente édition. Il nous a quittés en mai, au cours de sa grande carrière. Il a notamment découvert les anneaux de Neptune, qu'il a nommés Liberté, Égalité et Fraternité. Il aimait les étoiles, le savoir et le progrès. J'en viens maintenant à notre débat. Doit-on avoir peur du progrès et comment lui redonner un sens? Alors, pour répondre à cette grande question, avec nous des intervenants très différents, des scientifiques, un économiste et un ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. À 34 ans, vous étiez déjà conseiller diplomatique de François Mitterrand. Vous avez été le porte-parole de l'Élysée. Votre dernier ouvrage, « La France au défi », est paru en 2015 chez Fayard. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis, Emmanuel Todd est également présent, historien, anthropologue. Vous avez été formé en Angleterre, vous vouliez le souligner. Et vous faites de la recherche pour l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques. Vous nous parlerez des progrès, évidemment, dans ce domaine. Pierre-Marie Yédot, vous êtes neurobiologiste, un spécialiste du cerveau. Vous êtes directeur d'enseignement à l'Institut Pasteur, directeur de recherche au CNRS. On va parler avec vous de certains progrès. Pour notre cerveau, ça peut faire peur. Certains Français, vous allez nous en parler. José Milano est avec nous également. Bonjour, vous dirigez une école de management et vous avez eu des postes importants dans le secteur de l'assurance et du MEDEF. On parlera évidemment avec vous du métier de l'assurance qui est une réponse à la peur que peut provoquer le progrès. Et puis avec nous ce matin, un des plus grands pianistes, merci d'être avec nous, Keith Armstrong. Vous n'êtes pas français, mais vous avez étudié en France. Vous avez commencé à composer à l'âge de 5 ans. Vous êtes aussi mathématicien et le propriétaire d'une église en France. Vous nous ferez une petite surprise au piano tout à l'heure. Et puis, je vous rappelle la présence de Catherine Bréchignac, que j'ai présentée tout à l'heure, notre dernière intervenante. Jacques Attali devait également être présent. Il est légèrement souffrant. Il m'a demandé de vous transmettre ses excuses. Voilà, entrons maintenant dans le vif du sujet. Le progrès pour les Lumières, c'était forcément l'amélioration de notre société. Eh bien, en préparant ce débat avec nos invités, j'ai bien vu que tout le monde n'était pas d'accord avec cette définition du progrès et ses effets sur la société, à commencer par vous, Hubert Védrine, associé progrès technique et amélioration de la société. C'est pour vous, vous me disiez, complètement naïf. Pourquoi ?
Non, je ne dis pas que c'est naïf. D'abord, je m'excuse auprès de tout le monde, mais moi, je dois partir parce que je dois aller en province après à 12h40. Donc, quand je partirai, ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec ce qui se dit ou que je m'ennuie. Mais bon, c'est une obligation dont je m'excuse. En plus, il y a eu un petit retard. Bon. Alors, je ne suis pas contre ça. Je constate simplement que l'idée du progrès, en gros, époque des Lumières, 18e siècle, dans lequel il y a un mélange de progrès technique, d'innovation et de progrès dans l'organisation du monde, et de progrès moral, et de progrès philosophique. Je pense que presque plus personne ne croit à ça, en fait, dans le monde d'aujourd'hui. Enfin, personne ne croit que ce soit lié, automatiquement. Il y a eu ensuite le XXe siècle, qui était le siècle le plus meurtrier de toute l'histoire connue. Il y a eu la découverte de la bombe atomique, qui pour une partie des populations, moi ça ne me terrifie pas, mais pour une partie des populations, c'était épouvantable. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de réactions philosophiques après. Qu'est-ce que c'est que le monde après l'invention de la bombe atomique? Et en tout cas, me semble-t-il, en Occident, surtout maintenant, après les 20 à 30 ans de discours non convaincants sur la mondialisation dite heureuse, il me semble que les gens ont décroché de cette croyance, comme quoi ça serait tout mélangé, et que n'importe quel progrès technique conduit à une amélioration morale. Il me semble que plus personne ne croit ça. Sinon, il n'y aurait pas tellement de réflexion, d'ailleurs, sur l'éthique, la déontologie, la réflexion.
Ah, parlez bien dans le micro, monsieur Védrine, on ne vous entend pas sinon.
Ça vous évitera d'être en désaccord, éventuellement. vous entendez, là, maintenant? Mais la salle n'est pas faite pour des colloques, hein, en plus. Donc, je crois que la plupart des gens ne croient plus à l'aspect automatique et mécanique. En revanche, c'est évidemment le progrès technique. En permanence, mais il suscite des interrogations.
Des peurs.
Il n'y a pas simplement l'anticipation que grâce aux progrès techniques qui sont absolument évidents, les gens vivent infiniment mieux que dans toute l'histoire connue, mais ils ne le ressentent pas comme ça. on pourrait dire que nous vivons dans les sociétés les meilleures de l'histoire de l'humanité, à tout point de vue, ou les moins pires, mais les gens sont dévorés d'angoisse sur toutes sortes de plans, donc ça ne se transpose pas en une croyance au progrès, comme ça aurait pu être le cas chez Voltaire ou d'autres, vous voyez, dans l'encyclopédie. Ensuite, il y a dans notre époque, vous voyez, je ne parle pas du tout diplomatie, je suis tout à fait en dehors de mes domaines, en fait. Il y a l'angoisse écologique, qui n'est pas très forte dans les pays émergents, où les gens ont tellement de problèmes beaucoup plus urgents à surmonter qu'ils n'y croient pas vraiment. Et même quand les Chinois, par exemple, se rallient à l'accord de Paris COP21, sans lequel il n'y aurait pas eu d'accord de Paris, s'il n'y avait pas eu Obama et les Chinois. Ils ne le font pas parce qu'ils ont été convaincus sur la question du climat. Ils le font parce que, pour des raisons de pollution, l'air est devenu irrespirable dans les villes. Et que même dans la Chine, il y a une sorte de démocratie sur Internet et que les gens sont angoissés par ça. Donc il y a l'énorme question, disons, de l'avenir, non pas de la planète. Sauver la planète, c'est débile. Sur les planètes, il n'y a pas de vie.
Vous n'aimez pas les écologistes, il s'agit de crois.
Non, je suis tout à fait écologiste. Je n'aime pas l'instrumentalisation de l'écologie qui est pour moi une obligation vitale à des fins, disons, partisanes ou électorales. En plus, ça n'aboutit à rien. Il devrait y avoir 90% des gens derrière eux. Il y en a 4%, donc ça veut dire qu'il y a un bug dans le raisonnement. Bon, donc je pense que dans le monde occidental développé, il y a une énorme angoisse. Il y a un compte à rebours qui surplombe toutes les autres questions. Même si en matière de découverte scientifique, médicale, il y a des angoisses aussi. Et on ne retrouvera la croyance en un progrès raisonnable que si on arrive à convaincre que l'écologisation indispensable en 10, 20, 30 ans d'agriculture, industrie, construction, ça, va être plus rapide que le compte à rebours. À partir de là, il y a une espèce d'angoisse qui pèse sur nos sociétés qui réapparaîtrait. Dans le champ alors géopolitique, ce qui est frappant, c'est qu'il y a une lutte permanente entre ceux qui croient que nous vivons dans une communauté internationale, expression qu'on emploie tout le temps, que vous entendez toute la journée, et ceux qui disent, comme c'est mon cas, qu'elle n'existe pas encore. Il y a les Nations Unies, qui ne sont pas unies, mais enfin, il y a une organisation, il y a un préambule de la charte qui est magnifique, mais il y a un système multilatéral où des milliers de gens négocient tout le temps entre eux, mais il n'y a pas de communauté internationale des peuples. Il n'y a pas de point commun entre la vision du monde d'un pêcheur japonais, d'un ingénieur péruvien, d'un médecin canadien, d'un paysan sud-africain, etc. Ce n'est pas vrai. Ils ont des cultures, des civilisations, des formations, des angoisses, des peurs, qui ne sont pas encore là. Donc moi, je fais partie de ceux qui disent que la communauté internationale est à construire. Sur quelle base? C'est toute la question. Les valeurs occidentales universelles sont excellentes, mais ne suffisent pas, donc il faut trouver autre chose, etc., etc. Donc, vous voyez, je suis pas contre toutes ces idées, ni toutes ces espérances. Je les respecte, je les partage aussi. Mais si on voulait redonner aujourd'hui, en 2016, et pour les suites des temps devant nous, une vraie adhésion à l'idée de progrès, il faut lui redonner un contenu convaincant par rapport à des populations qui ont largement décroché.
Alors pour vous, Pierre-Marie Yédo, en discutant avec vous, pour vous le progrès, il répond surtout à des impératifs économiques et c'est un danger. Pourquoi ?
En fait, je pense qu'au tout début, il convient probablement de définir le terme de degré. Là, je crois que je suis de progrès, pardon. Je suis déjà en désaccord avec mon voisin.
Ah, bah tant mieux, on va avoir des débats.
Donc, dans la mesure où il y a d'abord évidemment cette définition philosophique qui se raccroche à trois grandes caractéristiques. D'abord, le progrès, finalement, c'est la possibilité de voir pour un peuple une histoire et donc de se projeter. Alors là, on est d'accord sur l'idée donc d'une dynamique hein, et d'avoir un objectif, un projet. Deuxièmement, il y a l'aspect évidemment quantitatif parce que ça va être l'accumulation d'informations, l'accumulation de connaissances. Et puis il y a le troisième aspect qui est l'aspect qualitatif qui va être en fait dans cet accroissement. Qu'est-ce que l'on veut faire évidemment? L'idée au départ et principe, c'était l'idée de l'application de cette connaissance par la raison pour un avenir meilleur, finalement le bonheur. Bon, il ne faut pas oublier que c'est arrivé, ces idées dans la modernité, pardon, avec l'idée que finalement il y avait donc les principes de démocratie qui émergeaient, il y avait en même temps évidemment un déclin de la foi en Dieu, et donc l'idée du progrès ici, avec cet embrayage entre la connaissance qui devient une application technique et de cette active valorisation technologique, on peut y voir ensuite dans l'ingénierie des produits finaux, c'est là où certainement on reviendra à discuter sur cette idée d'embrayage qui ne fonctionne plus tout à fait. Maintenant, d'un point de vue scientifique, le progrès est simple, c'est l'accumulation de la connaissance. Et là, on ne peut pas évidemment stopper cette marche en avant, parce que sinon c'est l'obscurantisme, parce que c'est ce que l'on connaît autour de nous, qui, lorsque l'on veut légiférer, ralentir ce progrès qui est donc dans l'idée de l'accumulation de la connaissance, ne nous trompons pas sur le progrès donc scientifique et le progrès technoscientifique qui lui pose problème.
Qu'est-ce que vous lui répondez, Monsieur Védrine ?
Je n'ai pas vu de contradiction, donc j'ai rien à répondre.
Non, mais sur le frein qui peut exister au progrès.
Non, mais je suis tout à fait d'accord sur l'accumulation. Simplement, j'ai dit que une grande partie des opinions, en tout cas en Occident, ne croient pas que ça entraîne automatiquement une amélioration morale ou sociale ou politique. Donc c'est sur ce point. Je pense que les gens n'y croient pas. Peut-être qu'ils ont tort de ne pas y croire. Mais je ne conteste pas du tout l'accumulation du savoir, bien sûr, que personne ne peut arrêter. Ça dépend de l'usage qu'on en fait après, mais ça fait partie des interrogations auxquelles on ne peut pas répondre à l'avance.
Alors que je pense, et là c'est évidemment matière à débat, disons qu'il y a deux valeurs qui vont être apportées par la notion de progrès. D'abord c'est la notion d'universalité, et ensuite la notion d'équité, c'est-à-dire que en théorie, ce savoir doit être partagé, et aujourd'hui, tous les progrès technoscientifiques nous aident justement à mettre en partage cette connaissance à des fins d'équité. Et probablement que là, les enjeux sont sociétaux, et on peut discuter aujourd'hui sur comment peut-on imaginer valoriser ces deux valeurs, l'universalité et l'équité. Et là, on reviendra sur ces projets communautaires qui font qu'on peut être extrêmement optimiste sans excès sur l'idée du progrès qui va être consubstantielle à l'humanité.
Catherine Bréchignac, vous vouliez réagir?
Oui, je voulais réagir parce que je suis tout à fait d'accord. Hein, c'est une évidence, le progrès est cumulatif, la science est cumulative, donc on a cette accumulation de connaissances. Alors après, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, ça c'est un sujet, parce que la société, elle se fiche complètement de la science. Ce qui l'intéresse, c'est la technologie, c'est ce qu'on fait avec la science. Mais il y a un deuxième sujet dont on n'a pas du tout très peu entendu parler, c'est que cette accumulation des connaissances, il faut l'ingurgiter, il faut l'absorber, il faut la comprendre. Et qu'il y a un énorme gap qui est en train de se créer entre ceux qui savent, et maintenant toute la science ne peut plus tenir dans la tête d'une seule personne comme c'était au temps des Lumières, mais on est déjà, nous, scientifiques, obligés de segmenter la connaissance, et la société et les gens qui n'en ont très peu appris. Et les uns utilisent leurs connaissances pour faire peur aux autres. Et c'est ça le vrai problème, un autre sujet de débat, à mon avis, sur lequel il faudrait insister. C'est pas tellement de se dire qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on sait. Oui, d'accord, là on peut mettre des règles, on peut mettre de l'éthique, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais c'est ensuite comment une partie de ceux qui savent vont l'utiliser pour faire autre chose. Puis je voulais juste revenir sur votre histoire de bonheur, parce que le bonheur c'est quelque chose de très particulier. Et si vous pensez à André Mauroy, il vous dira que dans son livre Climat, il a fait parler Solange, qui vous dit que le bonheur c'est un répit dans l'inquiétude.
Emmanuel Todd, pour vous, au niveau éducatif et démographique, les progrès sont là et ne cessent d'avancer? Il y a beaucoup de progrès?
Oui, je n'ai aucune opinion personnelle sur le progrès en général. Je n'ai pas l'esprit métaphysique ou moral. Mais en tant qu'historien et statisticien, je dois constater avec d'autres la marche irrésistible du progrès et le fait que nous sommes dans une phase, j'espère ne pas choquer, exceptionnellement positive de l'histoire humaine. C'est-à-dire que quand on regarde l'aventure d'Homo sapiens, on note certains progrès depuis les stades antérieurs. Mais il y a eu à un moment donné l'invention de l'écriture, il y a eu le décollage, plusieurs inventions de l'écriture, il y a eu des décollages des niveaux d'alphabétisation, et puis des régressions. Et puis à partir de la réforme protestante en Allemagne, il y a eu un mouvement, ça a amorcé un mouvement ininterrompu de progrès éducatif qui a mené d'abord le monde protestant à l'alphabétisation universelle, puis les voisins français, etc. Petite résistance de l'Église catholique, non solide même, mais ça a fini par couvrir vers 1900 l'ensemble de l'Europe. Et puis ce qu'on a vécu depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est la généralisation de l'alphabétisation universelle. Et c'est-à-dire que maintenant, dans les jeunes générations, on peut considérer que l'ensemble de la planète, vers 2030, Afrique comprise, sera alphabétisée. Et bien entendu, il y a des effets mécaniques. C'est-à-dire que quand les gens savent lire et écrire, les hommes, puis les femmes, puisque ça se passe en général dans cet ordre-là, on voit très rapidement baisser la fécondité, on voit les pays naviguer vers un état d'équilibre démographique, on voit que dès que les gens savent lire et écrire, le décollage économique devient possible. C'est ce mouvement d'alphabétisation universelle qui, pour moi, est la vraie toile de fond de la mondialisation. C'est ce qui a rendu la globalisation économique possible. Alors, ce phénomène positif, je pense, est mal perçu pour deux raisons. Parce que à aucun moment dans cette histoire de l'alphabétisation universelle, le progrès n'a été qu'un chemin semé de roses. Le progrès a toujours eu sa face noire, en fait. Parce que le moment où les gens apprennent à lire et écrire, ça veut dire que dans les familles, il y a un moment où les enfants savent lire et écrire et pas les parents. Donc vous avez une sorte de désorganisation des rapports d'autorité. Quand se déclenche la maîtrise du contrôle des naissances, vous avez des modifications des rapports entre les sexes et la sexualité elle-même. Et il y a des crises de transition. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, c'est que quand les pays décollent sur le plan éducatif, en général, il y a des crises violentes qui produisent des morts, des révolutions, des conflits d'un type ou d'un autre. Et donc, le progrès s'avance assez largement masqué par des crises de transition. C'est-à-dire, si on prend donc ce qui se passe actuellement dans le monde musulman, est vécu comme de l'horreur actuellement. Mais la face cachée de cette violence, c'est que toutes les populations du monde musulman viennent de passer le stade de l'alphabétisation de masse dans les jeunes générations. Ça se passe aussi en Afrique. Je veux dire, qui dirait que les troupes de la Côte d'Ivoire ou du Congo ou de tel autre pays ou les massacres du Rwanda ont un rapport avec la déstabilisation mentale qui va avec l'élévation du taux d'alphabétisation. Donc ça, je crois que c'est l'un des premiers éléments qui rendent pessimistes. Et il y en a un deuxième, je le dis vite avant d'oublier, ensuite je laisse le champ libre, c'est que pour ce qui concerne les pays les plus avancés, qui ont fait la course en tête, les pays protestants d'abord, avec les États-Unis, puis la France, puis l'Europe du Sud et la Russie, après le développement de l'éducation primaire, en fait, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, il y a eu, dès l'entre-deux-guerres pour les États-Unis et puis après la Deuxième Guerre mondiale pour l'ensemble de l'Europe, développement de l'éducation secondaire et supérieure qui a redivisé la société en classes éducatives distinctes et puis surtout qui a atteint progressivement un peu partout une sorte de plafond. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le niveau éducatif, ils font la course en tête, les Américains, mais ils ont aussi fait la course en tête dans le plafonnement éducatif qui est sensible dans les générations étudiantes vers 1965. Ça redémarre un petit peu maintenant. Nous, on est en retard, donc on a atteint en France ce plafond éducatif vers 1995. Et je suis certain que le sentiment de l'espèce de pessimisme qui s'est répandu a un rapport avec le fait que les pays les plus avancés sont plutôt patauges actuellement, à un niveau très élevé. Donc je pense quand même que la perception qu'on a des phénomènes est très altérée, parce que je ne suis pas absurde, je vois bien
convient, l'une des choses qui explique la surprise des élections américaines, c'est que la mortalité des Blancs de 45 à 54 ans a remonté aux États-Unis depuis l'an 2000, par exemple. Donc je suis capable de voir des phénomènes de régression. Mais si on prend l'ensemble de la planète et l'ensemble de l'histoire universelle, ça paraît peut-être bizarre de le dire maintenant, mais pour moi, je trouve ça difficile de ne pas être optimiste.
Vous êtes d'accord, Monsieur Védrine, avec ce constat sur les démocraties avancées ?
Je n'ai pas en désaccord. En général, je suis toujours impressionné par ce que dit Emmanuel Todd sur l'élément démographique, qui est vital, qui est fondamental, que souvent on perd de vue tout en le connaissant. J'espère qu'il a raison. Je pense que ça peut passer par des phases plus compliquées, plus longues que ce que vous dites, mais enfin, vous n'avez pas dit non plus que c'était court et facile. Donc, je ne suis pas trop en désaccord.
Non, moi, je suis un élève de l'école des Annales, donc tout est de longue durée. Hein.
Alors, d'accord. Moi, je suis brodélien aussi, tout va bien. sur la longue durée. Mais il y a, à certains moments, vous avez des forces contraires par rapport à ça. Par exemple, dans l'islam, vous avez dit que, en fait, il y a une transition démographique qui est en train de se produire dans le monde arabo-musulman. Vous avez dit arabo-musulman, ou les deux ?
En gros. Si j'avais été sérieux, j'aurais dû dire arabo-persan.
D'accord, arabo-persan. Mais en même temps, il y a un autre phénomène qui est une sorte de convulsion gigantesque au sein de l'islam. Je ne parle pas du conflit sunnite-chiite qui s'est réveillé, mais de l'affrontement entre l'ensemble des musulmans et puis la minuscule minorité qui est djihadiste, terroriste, etc., etc. Et ça, c'est des gens qui ne raisonnent pas du tout en termes de progrès, mais ils raisonnent en termes circulaires. C'est ça le grand changement de l'Occident 18e, c'est le fait qu'il y a un progrès. Alors toutes les cultures connues avant, toutes les civilisations, pensaient que c'est un temps qui tourne comme ça, avec périodiquement des spasmes pour revenir à la pureté des origines. Ce qu'on a vu d'ailleurs dans l'histoire des ordres monastiques en Europe, enfin catholiques, où tout le monde voulait revenir tous les trois siècles à la règle de Saint-Benoît, mais c'était marginal, ça n'a pas d'impact sur la société, ça n'est pas dangereux. Dans le monde musulman, là, il y a une espèce de furie de revenir aux fondamentaux des pères fondateurs, le salafisme, en fait. C'est très, très, très puissant. Très, très, très puissant, et c'est les musulmans, entre guillemets, normaux, qui finiront par dominer ça. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va résister à ce que vous dites, qui est certainement vrai aussi. Mais vous voyez, il y a une lutte entre les deux, qui est très claire en Iran, par exemple, aussi. Ça prend combien de temps ?
Alors, pour moi, en Iran, il n'y a pas photo. Je n'accepterai pas la description du schisme comme ayant une vision cyclique. Pour moi, le schisme, c'est ce qu'il y a de plus proche de la tradition chrétienne. Il y a l'idée que le monde est injuste, qu'il faut corriger ses injustices, que le débat est nécessaire. J'admets que j'ai une sorte de tendresse coupable pour le schisme, pour des raisons qui m'échappe à moi-même. Je crois vraiment que...
Et dans le sunnisme,
c'est plus compliqué. Effectivement, là, il y a l'idée d'une histoire certainement achevée, par définition. C'est d'ailleurs ce qui oppose les deux. Mais honnêtement, je ne suis pas compétent pour rentrer dans des débats théologiques, etc. Mais moi, je suis plus frappé par des forces qui échappent à la religion, des forces humaines. Par exemple, les anthropologues ont tout à fait noté, les gens s'exagèrent l'importance de la réflexion sur l'islam, c'est-à-dire qu'ils attribuent à l'islam toutes sortes de choses qui sont dans des dynamiques de système de parenté. Et par exemple, le message de Mahomet lui-même, un anthropologue britannique du début du siècle, avait déjà noté que la volonté de Mahomet d'émanciper les femmes avait été tout à fait contredite par la dynamique du système de parenté arabe. Je ne dis pas que c'est plus rassurant, d'ailleurs, en fait, en soi. Mais je pense qu'on parle trop de religion. Et en ce qui concerne vraiment le monde musulman, je suis tout à fait capable de concevoir encore des spasmes et des régressions. Je pense qu'on avait déjà eu l'occasion d'en parler tout à l'heure. J'ai tendance à penser que l'Arabie Saoudite va finir par s'effondrer dans des spasmes dont on n'imagine pas la violence. Mais je dirais quand même, il ne faut pas, soyons brodéliens jusqu'au bout, il ne faut pas se laisser impressionner. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire de l'Europe du XXe siècle, ou depuis la réforme protestante, en termes d'horreur, de volonté, de régression, on a vu, et je vais rester démographe, en termes de millions de morts, si on fait la somme de ce qu'ont représenté les guerres de religion, la guerre de 30 ans, la Révolution française, la Première Guerre mondiale, le nazisme surtout qui est quand même une référence et qui est si proche, je trouve qu'on est un peu, il ne faut pas être trop... j'ai pas dit que j'allais passer mes vacances en Syrie, hein. C'est pas ça du tout. Et je pense que là, il faut rester. Et puis, les Européens doivent marquer un temps d'humilité. C'est vrai que nous, on est dans une sorte de pessimisme apaisé. Mais c'est aussi beaucoup, c'est parce qu'on a ces crises de transition derrière nous. Elles n'ont nulle part. Aucun continent n'a jamais été aussi violent que l'Europe du XXe siècle. On sort de carnage. On est apaisé, on est riche, on est vieux en plus, ce qui explique peut-être aussi un peu le pessimisme. On n'a jamais eu des populations aussi âgées. Donc il faut, je reconnais que ça paraît insensible de dire « Mais non, ce qui se passe en Syrie, c'est une transition, on a fait pire. » Ça paraît cruel en fait. Mais pour l'historien de longue durée, c'est tout ce qu'on peut dire.
Est-ce que les gens sont trop pessimistes? Est-ce que leurs peurs sont justifiées ou injustifiées?
Un autre sujet, parce que si on parlait du pessimisme, il y a un cas particulier français qu'il faudrait essayer d'analyser. Vous savez, les grands sondages internationaux montrent que les Français sont les plus pessimistes au monde. C'est un autre sujet. Il y a même des années...
C'est notre honneur.
Mais ils ne sont pas pessimistes sur eux. Ils sont pessimistes sur l'avenir de leur pays. Et il y a des années où ils sont plus pessimistes sur l'avenir de la France que, par exemple, les Afghans sur l'avenir de l'Afghanistan. Donc, mais bon. Mais en attendant que vous ayez raison, démographiquement... certainement, dans 20, 30 ans, 40 ans. En attendant, il y a énormément...
Je suis démographe, alors les prédictions à 40 ans, pour moi, c'est sans risque. Hein.
Alors, 50 ans. Il y a énormément de grands intellectuels musulmans, ou de romanciers, ou de poètes, ou de dirigeants politiques, comme le roi du Maroc, par exemple. Énormément de gens qui appellent au secours. Ils appellent au secours contre la dérive islamiste. Et eux, ils n'ont pas du tout peur de se faire traiter d'islamophobes, ils s'en foutent. Ils appellent au secours parce qu'ils disent que même si à long terme les mécanismes que vous décrivez, et moi je suis tenté de vous croire sur le fond, il y a quand même un phénomène de réaction qui est violentissime en ce moment et qui peut durer encore 5, 10, 15, 20 ans. Et en gros ils disent, aidez-nous en faisant telle chose ou en ne faisant pas telle autre, à ce que ça soit plus court. Et...
Oui, on est d'accord, mais c'est cette histoire du progrès-régression... Je me souviens du bouquin d'un historien américain qui s'appelait David Schoenbaum, je crois, qui avait fait un bouquin qui était traduit en français sous le ton de la Révolution brune. C'était sur le nazisme et toute la thématique du nazisme était une thématique de régression, de retour dans le passé, à la paysannerie, etc. Et je veux dire, on a déjà Non, mais on n'a pas de désaccord hein, sur le fond, je vois bien. Notre vrai désaccord, c'est le désaccord entre le mec qui est dans son bureau avec ses chiffres et l'homme d'action qui veut faire quelque chose.
On va terminer comme ça.
Moi, je suis dans la situation du mec. Vous, tout à l'heure, vous allez repartir pour une autre conférence et moi, je vais rentrer chez moi pour regarder mon feuilleton à la télé. Donc, moi...
Pierre-Marie. Donc.
Juste une remarque sur cette notion... à laquelle il a été fait appel sur le temps cyclique et le temps linéaire. Donc le temps linéaire, évidemment, il faut aussi prendre en compte que dans cette idée de dynamique, le progrès est associé à la dynamique, que ça n'a pas toujours été le cas, que cette dynamique était évidemment porteuse d'espoir. Souvenez-vous, la Grèce antique, l'âge d'or, hein, c'était donc l'idée que la tradition était au contraire porteuse de raison et que l'exploration, la recherche était plutôt le doute. Mais il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. À cette époque-là, l'idée du progrès était en fait, la cible était la cité. Et donc c'était le partage, l'idée de mettre ce savoir à des fins d'amélioration de la qualité de la cité. Ça veut dire que à cette époque-là, science fondamentale et science appliquée n'étaient pas dissociées. Or, quand on parle de peur, puisque vous aviez parlé de peur de tout à l'heure, n'oublions pas que l'acteur dans la science, dans la recherche, dans le progrès, n'a pas peur puisqu'il est engagé. La peur naît, c'est une émotion qui vient lorsque nous sommes spectateurs. Et donc la grande peur que nous voyons aujourd'hui, c'est parce que la majorité des grandes révolutions technoscientifiques se font loin des yeux. Et d'où cette crainte qui naît parce que nous devenons des spectateurs et non plus des acteurs.
Madame Réchignac.
Oui, juste des rameaux parce que vous parlez du temps. Et alors, bon, pour nous scientifiques, le temps n'est pas dissocié de l'espace. Donc c'est déjà difficile de parler du temps comme ça dans l'absolu. De plus, on évolue de plus en plus en pensant que le temps, on ne sait pas très bien ce que c'est. Et ce qui compte, c'est au fond là, cette grandeur thermodynamique et l'irréversibilité. Et c'est ça qui fait peur. C'est parce que justement, quand vous avez les choses sont irréversibles, vous commencez à avancer quelque chose, vous avez la cause et l'effet, vous arrivez dans l'irréversibilité, et là, vous accumulez, et c'est ça qui déclenche les peurs.
José Milano, on parlait du spectateur, vous dans l'assurance, vous pouvez être acteur, comment agir face au progrès ?
Merci. Alors, je voudrais me placer d'un point de vue d'une école. C'est-à-dire cette école, effectivement, dans laquelle je suis, travaille à la fois sur des problématiques de risque, effectivement, mais aussi de responsabilité sociale et environnementale. On a des centres de recherche qui sont les seconds en France en matière de sur ces deux dynamiques-là. Alors, on pourra voir derrière ce que ça signifie du point de vue de la responsabilité sociale également. Alors, le risque, c'est quoi ? Le risque, c'est effectivement la volonté humaine d'essayer d'apporter de la sécurité au débat qu'on vient d'avoir. C'est-à-dire, alors, il y a trois origines de risque. Il y a des origines naturelles, hein, c'est catastrophes naturelles, c'est encore aujourd'hui 70% du montant des primes des assureurs. Donc majoritairement, ce qui aujourd'hui est sécurisé, en tout cas, c'est les conséquences de phénomènes qui sont ancestraux. La deuxième cause de risque, c'est des risques qui sont dus à la science elle-même. C'est-à-dire, pour l'instant, on ne voit pas encore arriver les conséquences de la science. C'est-à-dire d'utilisation par... Bon, c'est le chimique, c'est le bactériologique peut-être un jour, etc. Donc là, on voit tout un champ de nouveaux risques qui sont en émergence. Et puis, le troisième risque, c'est le fait de l'homme. Alors, du point de vue d'un assureur, évidemment, on regarde le risque terroriste et ses conséquences. La difficulté, évidemment, c'est qu'on pressent la combinaison possible de ces trois dimensions, c'est-à-dire la combinatoire entre des risques naturels, on l'a vu sur Fukushima, des risques qui sont liés à la technologie, et puis évidemment, si le fait de l'homme venait à agir non pas positivement mais négativement, les conséquences pourraient être remarquables. Alors, ce que font les assureurs, les réassureurs, c'est qu'ils modélisent les risques, pour essayer de trouver des réponses. Et dans ces modélisations, ils réinterrogent le passé. Par exemple, on a des traces de séismes gigantesques au Canada, par exemple.
Il y a toujours des nouveaux risques.
Tout à fait. Mais il y a des risques naturels, on peut les modéliser. Et les risques du passé à l'échelle qui est la nôtre, de toute façon, on les met dans les modèles pour essayer de voir, effectivement, quelles seraient les conséquences aujourd'hui de risques qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça. Bon. Et donc après, il y a effectivement un certain nombre de modélisations, notamment du fait de la vie humaine et de la présence des métropoles et des sociétés qui sont extrêmement concentrées et qui, du coup, concentrent les risques. Donc le travail des assureurs est d'essayer de modéliser et de proposer des réponses pour effectivement réparer, le cas échéant, d'éventuels dysfonctionnements, là pour le coup, de nos sociétés, mais vu du point de vue de l'application de la technologie aux sociétés humaines.
Kit Armstrong, peut-être maintenant, vous disiez que l'éducation pour vous est essentielle pour éviter ces peurs face au progrès.
Pour moi, le progrès, parce que vous m'avez bien demandé de définir le progrès d'une façon théorique et pas de le décrire d'une façon pratique, pour moi, ce genre de question est très difficile parce que, en fait, je n'aime pas les questions qui mettent en opposition le progrès et l'être humain. Pour moi, il ne faut pas oublier que le progrès, finalement, c'est la manifestation de cette aspiration de l'humanité de devenir quelque chose de plus. Et alors, je suis tout à fait d'accord avec cette définition que le progrès, c'est, au moins le progrès scientifique, c'est l'accumulation des connaissances.
Le progrès artistique, c'est différent.
Oui, peut-être. Je pense...
Alors, Madame Réchignac dit qu'il n'y a pas de progrès dans l'art. Est-ce que vous êtes d'accord ? Marchez pas le micro, Madame Réchignac.
En fait, c'était exactement cette phrase que j'avais utilisée.
Et c'est une chance.
Oui, c'est une chance, c'est exactement. Parce que.
Alors, laissez-le peut-être répondre, puisqu'il est pianiste.
Non, mais je pense qu'on est en train de dire exactement la même chose, que dans le progrès artistique, il est très difficile de séparer cette idée de progrès et l'idée de changement. Dans tous les changements, il y a sûrement des éléments qui sont perdus et des éléments qui gagnent. Je peux vous donner des exemples dans le domaine de la musique classique, la fugue, par exemple. À la fin, c'était juste une expression d'une sorte de rigueur académique. Mais au début, c'était l'écriture qui a permis beaucoup de possibilités d'expression. Et par contre, la représentation de la violence, surtout la violence corporelle, dans la musique, a développé beaucoup si on compare la musique romantique du 19e siècle avec celle de la Renaissance du 16e. Par contre, il y a quand même la possibilité de constater des progrès parce que le passé ne se perd pas. Vous avez parlé de l'irréversibilité et ça n'existe pas vraiment dans la musique. En fait, il y a deux façons de considérer cette question. En tant qu'interprète dans le domaine de la musique classique, on est forcément ou presque forcément historien de longue durée. Il n'y a pas beaucoup de domaines où on s'occupe tous les jours avec des œuvres qui ont été écrites et pas modifiées depuis 800 ans. Par contre, moi je dirais que oui, il y a la possibilité de dire maintenant on n'est pas les mêmes êtres humains qu'à l'époque de l'écriture de ces œuvres, alors il nous est impossible de les entendre de la même façon. Moi je ne suis pas d'accord. Et c'est pour ça que mon métier existe, parce qu'il y a quand même une universalité qu'on essaie de chercher.
Alors, Madame Bréchignac n'est pas d'accord avec vous, je la vois souffler.
C'est pas tout à fait que je suis pas d'accord, mais j'ai des petites divergences. Tout d'abord, il y a effectivement, enfin à mon avis, pas de progrès dans l'art. Si vous regardez l'art pariétal, il est aussi beau qu'un tableau de Kandinsky. Enfin, je veux dire, l'émotion que vous avez quand vous regardez une peinture, c'est une émotion. Et pour l'instant, enfin, il faut se mettre à l'échelle humaine, les émotions sont toujours les mêmes. Et quand vous regardez les gens qui vous imaginent de la science-fiction, ils mettent toujours l'amour, les sentiments, etc. Donc ça, il n'y a pas de progrès dans ce, enfin, pas de progrès à l'échelle à laquelle on peut l'imaginer. C'est ce qui fait que c'est heureux, dans un sens, je dirais heureusement, parce que c'est un peu un rocher sur lequel on peut se raccrocher. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est universel chez l'humain et ce qui nous permet, et là vous l'avez dit, le fait de pouvoir réécouter un morceau de musique de manière différente parce que vous avez vécu quelque chose, c'est clair, mais c'est pas nécessairement un progrès. C'est une évolution, mais c'est pas nécessairement un progrès.
Oui, il y a cette universalité des émotions, là, je suis tout à fait d'accord. Mais la question c'est, est-ce que la musique d'une certaine période de l'histoire à la capacité d'exprimer ses émotions. Et là, peut-être, il y a des questions techniques aussi, qui ne sont pas seulement associées à la possibilité de la musique d'évoquer des émotions.
Monsieur Védrine, vous vouliez poser une question, je crois, à José Milano.
Deux questions. Mais deux avant, questions. Je ne résiste pas au plaisir de dire que je suis sans frais d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de progrès en art, il y a des changements permanents, et qu'on peut être bouleversé en voyant la grotte Chauvet ou en voyant telle ou telle réalisation de l'art contemporain. On peut même aller au-delà, parce que moi je vais inaugurer des biennales de Venise en tant que ministre de Venise art contemporain avec mon collègue italien. Donc là je doutais même du progrès, vous voyez, compte tenu de ce qu'on avait financé. c'est une remarque malicieuse. Enfin, admettons qu'on peut être ému dans tous les cas. Alors les questions que je voulais vous poser, qui sont des questions, hein, je n'ai pas de réponse claire. D'abord, en ce qui concerne les catastrophes naturelles, j'ai lu un ensemble d'études, mais vous avez certainement un avis là-dessus, disons qu'il n'y en a pas plus qu'à toutes les époques, mais que simplement comme la Terre est très peuplée, surpeuplée, que les gens sont fixes, que c'est bourré d'équipements partout, les conséquences des catastrophes naturelles, qui évidemment sont secondaires, s'il y a 3000 nomades qui circulent et s'il y a 10 millions d'habitants, ce ne sont pas les mêmes. Cette première question, est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Ça, c'est ma première question. Deuxièmement, comment, puisque vous rationalisez un peu les raisonnements, le calcul à long terme, en fait, comment on définit exactement la catastrophe de telle ou telle catégorie. Par exemple, Fukushima. Moi, il me semble que ce n'est pas un accident nucléaire. C'est un tsunami, enfin, c'est un tremblement de terre.
Tout à l'heure, vous l'avez mis dans les catastrophes naturelles, d'ailleurs.
Et pour moi, ce n'est pas un accident nucléaire comme Tchernobyl ou Three Island. Or, ça a des conséquences énormes sur beaucoup de plans, y compris en Allemagne, qui a arrêté le nucléaire et donc relancé le charbon et donc le CO2 suite à cet événement. Mais on peut l'analyser de différentes façons, peut-être. Donc, je ne sais pas, quelle est la vraie définition de Fukushima? Et est-ce qu'il y a vraiment plus de catastrophes naturelles selon ce que vous savez, vous, quoi?
Alors, sur effectivement, la question des catastrophes naturelles, il y a la question de la fréquence des catastrophes et des conséquences des catastrophes. Donc, sur la fréquence, effectivement, les fréquences sont sur une longue période relativement constantes. Les conséquences, comme vous l'évoquez, sont en fait très différentes, de beaucoup plus grande ampleur. On voit très clairement les catastrophes. L'effet du réchauffement climatique se voit extrêmement concrètement dans toutes les modélisations. Donc ça, c'est quelque chose qui augmente les effets, puisque un même ouragan aujourd'hui atteint des conséquences bien supérieures à celui qu'on aurait pu vivre il y a 20 ou 50 ans.
Ils sont plus forts qu'avant ?
Oui. Considérablement, des vents beaucoup plus forts, etc. Puis après, il y a le phénomène, effectivement, de l'impact sur la vie humaine. Quand vous avez 50% de la population humaine qui est concentrée à 100 km ou 150 km près des côtes, les effets, évidemment, sont tout à fait différents. Alors après, à l'intérieur des différents pays, on voit aussi que la dichotomie qu'on a vue au début entre pays développés ou pays en voie de développement, elle est, sans être cynique, absolument évidente en matière de catastrophe. C'est-à-dire que vous voyez le même ouragan dans les Caraïbes qui touche des îles comme Haïti, vous voyez les conséquences humaines absolument effroyables, et ces conséquences, le même ou le suivant dans la chronique qui va sur les côtes américaines, les conséquences sont complètement différentes. C'est-à-dire que les sociétés se sont organisé et continue de s'organiser pour faire face à ces catastrophes naturelles. Et évidemment, le défi qui nous arrive maintenant, c'est le défi du changement climatique. C'est comment on s'organise, comment nos sociétés développées s'organisent pour faire face à cette nouveauté, et avec une échelle de temps qui, effectivement, est une accélération très forte, avec des sociétés qui ont beaucoup plus de mal à s'adapter aussi vite que le phénomène que nous, on perçoit.
Madame Bréchignac.
Sur le Fukushima.
Oui, alors là-dessus, c'est vrai que c'est un point très, très, très particulier, parce que on a considéré que, après les deux premières catastrophes que vous évoquiez, ça ne pouvait pas arriver en Occident parce que les systèmes de sécurité étaient d'un niveau bien supérieur. Ce qui s'est passé, c'est que c'est la combinatoire d'un certain nombre de phénomènes, et donc de l'amplitude de ce phénomène naturel qui a engendré les conséquences que l'on sait, qui sont absolument... Donc on est bien dans une catastrophe naturelle, mais dont on n'avait pas modélisé, y compris du point de vue du pilotage du risque opérationnel, on n'avait pas modélisé les conséquences potentielles. Et ça s'est joué, j'allais dire, un peu comme le Titanic, ça s'est joué à pas grand-chose sur une piscine, mais cette différence-là, elle a été... ça a eu des conséquences.
Il n'y a pas de risque de tsunami en Europe?
Non. Non, mais il y a d'autres risques possibles.
Moi, j'avais lu à l'époque de Fukushima juste une enquête remarquable dans le New York Times où des journalistes américains avaient été sur place. Il y avait dans la ville de Fukushima des stèles anciennes remontant à deux ou trois siècles où les anciens disaient qu'il ne faut jamais construire au-delà de cette limite parce que tous les 150 ans, il y a un tsunami, etc. Alors évidemment, on a pulvérisé ce genre de limite comme chez nous dans les stations de sport d'hiver et compagnie. Donc c'est plutôt ça l'origine de la... Et alors ça concerne une centrale nucléaire, évidemment, comme n'importe quoi d'autre.
Oui, mais on n'avait pas prévu, c'est vrai, mais il y a ce que vous dites, mais on n'avait pas prévu non plus l'hypothèse que l'eau allait empêcher l'alimentation électrique qui allait permettre de faire fonctionner le système de secours.
D'accord.
Oui, mais il ne faut quand même pas se focaliser ni sur le nucléaire, ni sur le réchauffement climatique. Les catastrophes naturelles, elles ont toujours existé, elles ont toujours été dramatiques, mais sauf que, évidemment, comme la population mondiale est multiplié par 10 en un siècle, c'est sûr que ça a une importance beaucoup plus forte maintenant que ça n'avait autrefois. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il ne faut pas non plus se focaliser complètement sur le nucléaire, parce que vous prenez un avion, vous l'envoyez sur le P4 de Georgia Tech, enfin d'Atlanta, et vous avez une épidémie assez catastrophique qui va vous bousiller la population américaine. Donc, il n'y a pas que ça. Donc évidemment, on construit des choses, mais il y a toujours un danger. Et le danger de la guerre, il est toujours présent. Et celui-là, c'est pas plus pour une chose que pour une autre. Donc je crois qu'il faut quand même se rendre compte de... enfin, pour moi, la meilleure contre-attaque à tout ça, c'est l'éducation. C'est le fait justement qu'il faut éviter que les gens tirent dessus et entraînent des catastrophes de ce genre, beaucoup plus que d'avoir peur de ce que nous avons construit.
Pierre-Marie Hédot.
Mais juste pour rebondir, parce que ce débat me rappelle le fameux débat du tremblement de terre de Lisbonne avec la querelle entre Rousseau et Voltaire. Mais je voulais juste revenir sur la notion. Je suis juste sur la notion de danger, de peur, parce qu'il ne faut pas oublier que, en fait, c'est le risque, c'est en fait le produit du danger par la probabilité que cela arrive. Et évidemment, on peut. Simplement avoir peur de situations qui sont très peu probables. Bon, juste, je voulais revenir sur cette notion qui est probablement qui nous ramène au thème de la notion de progrès est-il consubstantiel de l'humanité. Eh bien, c'est de dire que si la modernité a apporté de l'espoir à l'individu, remettons ça dans son contexte, hein, c'est la révolution, c'est l'idée que voilà, des démocraties vont pouvoir émerger, donc c'est le bonheur de l'individu. Ce qui est assez intéressant de voir aujourd'hui, c'est que le bonheur, finalement, nous invite à réfléchir sur la notion d'héritage. C'est pour ça qu'on parle de... Donc, au travers du progrès, c'est le développement, mais on y rajoute le qualificatif de développement, maintenant, durable, pour l'humanité et pour la biosphère. Donc c'est en fait une prise en compte, finalement, d'une pensée complexe. On est un écosystème, l'humain est un écosystème, il n'est pas au-dessus des autres systèmes, il est avec ces autres systèmes. Et c'est, à mon avis, l'idée du progrès aujourd'hui qui est en train d'émerger, c'est cette notion de système complexe, pas compliqué, mais complexe.
Alors on va peut-être prendre maintenant quelques questions dans la salle avant que M. Védrine ne parte, si des personnes souhaitent poser des questions. Alors, je vais peut-être pas pouvoir vous donner un micro si la demoiselle va vous en donner un.
Oui, bonjour. Je me définis comme technoprogressiste, on utilise aussi le terme transhumanisme, et je pense qu'un des enjeux fondamentaux de l'avenir à 30 ou 40 ans, c'est comment permettre aux femmes et aux hommes qui le souhaitent de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, et est-ce que ça va être bénéficiaire à tous ou seulement à quelques-uns, et donc est-ce qu'il y aura des investissements publics dans ce domaine-là. Mais comme il y a un autre débat sur ce sujet, j'avais une autre question. Je suis
surpris.
Je suis surpris de ne pas entendre parler de la problématique qui est pourtant abordé justement, notamment par les transhumanistes, de ce qu'on appelle les risques existentiels, donc les risques qui pourraient mettre fin à l'existence de l'histoire de l'humanité, parce qu'on s'autodétruirait. Donc le plus connu, c'est la question du nucléaire, mais avec les progrès technologiques dans le domaine des armes, dans le domaine des nanotechnologies, dans le domaine éventuellement de l'intelligence artificielle, dans beaucoup d'autres, il y a le risque que les progrès technologiques qu'on ne peut quasiment pas arrêter, amène à cela. Donc un jour, ce qu'on appelle parfois aussi la démocratisation de la violence, donc un jour, il soit possible à un tout petit groupe d'arriver à des niveaux de destruction jamais atteints, ou bien aussi qu'un jour on s'autodétruise, disons, par erreur. Donc par rapport à toutes ces problématiques-là, qui ont l'air de la science-fiction et dont on espère que ça restera de la science-fiction dystopique, mais quelles sont les propositions qui sont faites, quelles sont les propositions, et ça c'est particulièrement peut-être à l'Institut des sciences, qui pourraient être envisagées pour savoir comment prévenir cela, limiter...
On va laisser quand même répondre les scientifiques plutôt.
Bon, c'est évidemment une question fondamentale, celle que vous venez de poser, mais... À mon sens, c'est la prise de conscience collective qui pourra la résoudre et pas laisser à des petits groupes, comme vous l'avez dit, le fait de pouvoir tuer une partie de l'humanité. On a vu quand même, lors de la dernière guerre mondiale, qu'il fallait de peu de choses pour entraîner des catastrophes.
Peut-être sur le cerveau, vous pouvez nous parler un petit peu. Il y a des projets fous sur le cerveau, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut avoir peur de ça? Certains ont peur de ça, en tout cas.
Mais derrière la question de monsieur, en fait, en filigrane, se cache la notion de cadre. Faut-il mettre un cadre normatif? Et je reviens sur ce que l'on a dit, et je rebondis aussi sur la notion d'éducation. Qui a été abordée par Mme Bréchignac, c'est-à-dire que la science de la connaissance ne doit certainement pas être normée, ne peut pas être limitée, parce que n'oublions pas que la science, c'est de pousser en permanence les frontières de l'ignorance. Donc, cela dit, donc, on ne peut pas limiter cette appétence qu'a le cerveau à comprendre, à connaître. Je ne parle pas de savoir, mais de comprendre. Maintenant, il existe une autre conséquence de cette société de la connaissance, c'est l'application de cette connaissance-là. Et ça, évidemment, ça nous invite à avoir un cadre politique, puisque justement, en absence de tout cadre, qui soit d'ailleurs un cadre international, parce qu'aujourd'hui on essaie de légiférer, d'avoir des comités d'éthique, et c'est très bien donc à des niveaux de l'État-nation, mais en fait il s'agit d'un processus qui est global et collectif. Et en l'occurrence, en absence de ce cadre politique, qui aujourd'hui est en train d'utiliser à des fins mercantiles cette valorisation de la science, de la société de la connaissance, c'est évidemment le GAFA, le Google, Apple, Facebook, Amazon, qui utilisent ce savoir-là pour le vendre et pour prendre une position hégémonique. Et là, mon principe de tout à l'heure entre l'universalité et l'équité, il est violé.
Monsieur Védrine, c'est aux politiques de fixer les limites, selon vous ?
Il faut bien que quelqu'un décide, au bout du compte, les règles. On a inventé en Occident la démocratie, qui est en crise d'ailleurs, parce que les gens ne se sentent plus représentés.
C'est un problème,
dans le cadre de la démocratie représentative.
Vous êtes moins légitime qu'avant.
Oui, mais alors c'est qui? C'est tout le monde? C'est n'importe qui? C'est compliqué. La contestation de la démocratie représentative peut aboutir à l'idée philosophiquement séduisante et technologiquement possible que tout le monde décide. Autrefois, c'était les habitants d'un canton suisse qui se réunissaient sur la place du village. Bon, aujourd'hui, on pourrait tout à fait être consulté tous les matins sur les smartphones. Qu'est-ce que vous pensez de la peine de mort? Ah, il y a eu un crime atroce hier, tac, je la rétablis. Le lendemain, ah, c'est pas vraiment dans mes idées, c'est embêtant quand même, toc, je l'annule. Bon, est-ce qu'il faut pas faire l'accord avec les États-Unis sur le commerce ou pas? Bon, donc on peut, aujourd'hui, c'est pas impossible d'avoir une sorte de totalitarisme bien pire que ce que Orwell a décrit, qui serait la dictature de tous sur chacun, à chaque instant, sans qu'il y ait de tyran en haut qu'on puisse aller assassiner, même en invoquant toutes les théories théologiques sur le tyrannicide justifié, dans certains cas. Donc c'est compliqué. Moi, je crois à la démocratie participative, utilisée de façon intensive pour régénérer la démocratie représentative contre le totalitarisme aveugle de la démocratie directe. Enfin, c'est tout un vaste débat. Je voulais dire juste un mot sur le mot « global ». Bien sûr, tout est global et tout est indépendant, etc. Mais il n'y aura jamais de président global du peuple global. Et il n'y aura jamais le ministre machin chose global du gouvernement global. Ça n'arrivera pas. Donc la solution, elle est de s'appuyer sur les structures politiques existantes, si possible relégitimées, qui travaillent ensemble. C'est la même confusion que sur l'Europe. Quand on emploie le mot Europe, on ne sait pas si ça veut dire qu'on s'en remet à l'Europe, qui va décider à notre place, parce qu'on est trop petit, trop vieux, fatigué, qu'on a pas assez chargé, blablabla, bon, tout ça. Donc on s'en remet au commissaire Tartampion pour décider à notre place.
Mais comment on les relégitime,
ou si simplement l'union fait la force, donc un travail ensemble. Donc à mon avis, il n'y a pas de solution à ces questions que dans des mobilisations générales, dont un bon exemple récent est la COP21, très bien orchestrée par Laurent Fabius, mais qui n'aurait pas pu avoir lieu non plus s'il n'y avait pas eu une audace d'Obama. Courage d'Obama et l'avancée des Chinois, et qui en plus a combiné des entreprises du monde entier qui veulent se positionner sur le marché qui commence maintenant de la compétitivité écologique, et qui vont bouger beaucoup plus vite que des tas de gens dans leur tête, plus les ONG, plus les villes, plus les gens, plus ceci, plus cela. Donc vous avez un bon exemple de coalition et il n'y a pas une autorité globale, vous voyez. C'est le résultat collectif. Comment on relégitime, c'est une autre histoire, mais on ne peut pas débattre maintenant en 3 minutes de l'avenir de la démocratie, sauf qu'elle est en péril dans les pays démocratiques, mais elle reste désirable dans les pays où il n'y a pas encore la démocratie.
Une petite précision, l'une des bizarreries du discours politique actuel, c'est qu'on vit dans un monde, on parle de démocratie, hein, je n'ai pas du tout prévu, donc on sombre immédiatement une sorte de narcissisme occidental où on associe le mot, moi je suis tout à fait démocrate libéral banal, hein, je parle de, et on part du principe, un axiome, que la démocratie c'est le progrès. Mais l'histoire de l'humanité n'est pas l'histoire de la démocratie. Il y a eu du progrès dans des systèmes non démocratiques, il y a eu des oligarchies assurant de vastes progrès en termes de gestion. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que de plus en plus, les gens qui parlent de démocratie et qui accusent des soulèvements populistes ici ou là, ne sont en rien représentatifs de la vraie démocratie. On est dans un pays comme la France. En 2005, il y a eu un référendum. Le non l'a emporté massivement. Et d'autres institutions, les chambres, l'exécutif, se sont organisées pour que les résultats du référendum soient abolis par un traité supplémentaire. Donc la France, en Europe, n'est plus une démocratie. Vous voyez ? Je voudrais juste rajouter une blague finale. Puisqu'on parlait, tout est nuancé. Moi, je crois beaucoup dans l'équilibre des pouvoirs, des puissances, et avec l'idée qu'il faut avoir une sorte de fond de confiance dans l'humanité. Mais je ne peux pas laisser accuser sans justification ces institutions que sont Google, Amazon et autres. Je veux dire, moi, je fais de la recherche en sciences humaines. Google est de fait un instrument extraordinaire, les traducteurs mis en place sont des instruments extraordinaires, Amazon permet de commander des livres à une vitesse folle. Je pense qu'avec mes forces déclinantes de vieux chercheurs, je n'aurais pas pu vivre si longtemps sans ces innovations technologiques. C'est très bon pour les vieux chercheurs, en fait, quand même. On n'a pas à courir les fonds de bibliothèques obscures avec l'énergie d'un étudiant qui peut faire des 100 mètres. Vous voyez, quand même, c'est... Voilà. Et puis, en ce qui concerne la régulation des risques, etc., par les gouvernements, il en faut, bien sûr. Il faut des élites responsables, etc. Mais il faut aussi ne pas faire trop confiance. Donc, je termine par une blague finale sur le progrès. On a eu le Premier ministre tout à l'heure, je crois.
Bien sûr.
Ben, je dirais, par exemple, dans un pays comme la France... l'observation attentive du comportement de notre gouvernement ne donne pas foi en l'idée de progrès.
C'est votre avis. Une deuxième question, la dame en blanc.
Alors moi, je tiens d'abord à vous remercier. Mon humble cerveau est dans un délice formidable. Vous êtes top. Vous êtes d'une intelligence et en plus vous avez un sens de l'humour. Mon cerveau est dans le délice. Question. Ça revient à la question de monsieur de tout à l'heure, qui je crois est une question fondamentale de peur. Comment peut-on maîtriser les cerveaux, les progrès? Et le monsieur a parlé du nucléaire. Et je crois qu'aucun d'entre vous n'a répondu, sauf madame qui a dit l'éducation. Mais madame, prenez la Corée du Nord. Prenez-la et répondez-moi. Et le terrorisme, où, à la limite, ils vont se dire d'ici quelques décennies, non pas décennies, quelques mois, et si on mourait tous martyrs, et le nucléaire, voilà ma question, donc c'est la même. Merci. Corée du Nord, terrorisme, martyrs. Merci.
Madame Bréchignac. Pas facile de...
Et oui, il y a un vrai risque.
Je viendrai vous aider.
Oui, vous savez, je suis physicienne, je suis pas. La Corée du Nord, c'est quand même une toute petite partie de notre planète. Non, mais attendez, je peux répondre. C'est quand même une toute petite partie de notre planète. On verra comment elle évoluera. Après tout, c'est pas de là que va sortir un feu d'artifice aujourd'hui. Enfin, je ne le pense pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tout le monde a peur du nucléaire, à tort d'ailleurs, parce que on ne le voit pas, parce que c'est le noyau de l'atome. Alors moi, on me dit, j'ai travaillé sur l'atome, alors on me met dans le nucléaire. J'ai jamais travaillé dans le nucléaire, mais enfin, moi, je me suis intéressée à l'atome en tant qu'atome, mais pas en tant que noyau. Et en fait, bon, ça a été une énorme découverte du début du XXe siècle. On en a tiré une énergie extraordinaire et qui a fait faire des progrès à l'humanité. On en a tiré aussi des armes absolument énormes qui a été une preuve de cruauté de l'homme lui-même vis-à-vis de lui-même, et pas, c'est pas du tout, ça a rien à voir avec le progrès. Donc je pense que la chose qui manque dans toute cette histoire, c'est essentiellement l'éducation, d'abord pour apprendre aux gens qu'est-ce que c'est que le nucléaire. Parce que qu'est-ce que c'est? Si je pose une question à quelqu'un, c'est comme si je m'amuse à poser une question, comment marche le GPS? Vous allez voir dans la salle combien vont être capables de me répondre correctement à la question. Donc je ne le ferai pas. Mais donc en fait, c'est vraiment l'éducation qu'il faut pour savoir où est le danger. Parce qu'une fois que vous savez comment ça marche, alors vous pouvez commencer à vous poser où est le danger et après à apprendre à éviter ce danger. Donc je crois que c'est ça qu'il faut faire, c'est essentiellement l'éducation, comment ça marche, où sont les problèmes, comment faire éviter ça, et après avoir une réflexion collective sur l'utilisation des objets.
Pierre-Marie Hédot va vous répondre.
Alors, d'abord sur un angle d'attaque du cerveau. Vous savez qu'il y a une fonction qui est consubstantielle de l'humanité, c'est la notion de désir. La notion de désir, finalement, ça peut se résumer très simplement en indiquant que le désir, c'est une simulation de la récompense à venir. Donc c'est un projet, c'est un objectif, c'est un but en soi. Et quand Madame prend l'exemple de pays qui vivent dans la dictature, évidemment, c'est probablement ici une façon de réagir au fait que force est de constater que nous sommes de moins en moins des êtres désirants. Nous sommes plus portés vers le plaisir, qui est l'acte de consommation, de « je suis dans le présent et je ne me projette pas dans le futur ». Et donc, des sociétés mettent en place, puisque nous perdons plus ou moins tous notre désir, et quand on parle de progrès et de science, il faut se rappeler justement le fameux « libido sciendi », c'est la soif, le désir de comprendre. Et bien, quand ce moteur disparaît, on voit d'autres formes émerger, que ce soit des formes de dictature où, d'un seul coup, une personne décide du désir de la communauté, que ce soit des formes de terrorisme ou d'autres formes, comme on connaît malheureusement actuellement, qui viennent prendre place dans nos sociétés parce que finalement, vous avez 17 ans, on vous questionne par Internet, bon, tu as le dernier iPhone 7, est-ce que tu es plus heureux? Ben, non, pas forcément, tu as la dernière paire de Nike. T'es plus heureux? Non, pas forcément. Eh bien, nous, on a un projet pour toi. Puisque finalement, la société ne permet plus l'expression du désir. Nous, on vient et on t'en apporte un. Donc, je reviens sur cette notion centrale de l'éducation, qui est justement au travers de l'éducation qu'on peut justement permettre la culture de ce désir-là.
Monsieur Védrine, sur les racines du terrorisme, qu'en pensez-vous?
Je vais dire un mot sur le terrorisme, mais avant, un mot sur la Corée et d'autres pays de ce type. D'abord, moi, je fais partie de ceux qui considèrent que la dissuasion nucléaire symétrique a évité une autre guerre mondiale. Elle a permis que la guerre froide reste froide. Elle n'est pas devenue chaude. Alors que dans un monde sans armes nucléaires, je suis convaincu qu'à un moment ou un autre, soit à propos de Berlin, la situation en Europe, ou bien Proche-Orient, ou bien Pakistan, Inde, etc., il y aurait d'autres grandes guerres. Donc je pense que c'était vrai, heureusement qu'Hitler n'a pas trouvé la bombe atomique avant les Américains, mais après, entre les Soviétiques et les Américains, voilà ce que je pense sur le plan de la géopolitique. Deuxièmement, je ne crois pas que des pays nucléaires, même dirigés par des dictateurs, veuillent se suicider. Et je ne pense pas que le président de la Corée du Nord, aussi fou qu'il nous paraisse, veuille se suicider. Donc il l'utilise comme un moyen de chantage, pour éviter que son régime s'écroule. Et comme les Chinois qui le soutiennent sans le soutenir, et la Corée du Sud et terrorisait l'idée d'avoir à gérer la réunification. Parce que gérer la réunification de la Corée du Nord, qui est plus peuplée que la Corée du Sud, pour remettre à niveau économique la Corée du Nord, ça fait plonger l'économie de la Corée du Sud pour 30 ans. Donc il veut que ça se passe lentement. Lentement. Et l'autre, pendant ce temps-là, il exagère son pouvoir de chantage et de menace pour négocier. Même si les Iraniens avaient eu la bombe nucléaire, les plus grands experts américains qui faisaient campagne contre l'arme nucléaire iranienne savaient très bien qu'ils n'auraient jamais envoyé une bombe sur personne. Même des gens comme Kissinger et Brzezinski me l'ont dit en privé, en vérifiant que personne ne les écoutait. Mais bon, il y avait un élément de chantage, etc. Donc je ne crois pas qu'il y ait un risque d'emploi de l'arme nucléaire par une sorte de phénomène suicidaire des dictateurs. Les dictateurs, ils tiennent beaucoup à leur peau, en plus. Bon, donc voilà mon raisonnement sur le nucléaire. On sortira du nucléaire.
Je voudrais juste vous interrompre pour dire que je suis d'accord avec vous à 100% et dire à la salle qu'elle vient d'entendre la vérité.
Attendez, j'ai pas fini. Il n'empêche que la question de la sortie du nucléaire est une bonne question. Mais sur le plan du nucléaire civil, on en sortira quand on aura trouvé des énergies de remplacement qui n'aggravera pas le risque climatique. Si on le fait démagogiquement et électoralement comme Mme Merkel, je le répète, on sort prématurément pour essayer de ne pas perdre une élection régionale qu'elle avait d'ailleurs perdue quand même. Et du coup, elle relance le charbon et la lignite. Et si les Suisses votent la sortie demain du nucléaire, et comme ils ont fait tous les barrages possibles et imaginables, et ils vont être obligés de également relancer du charbon. Donc il faut sortir de façon intelligente, raisonnable, quand on aura fait des percées scientifiques géantes, pour que le stockage de l'électricité produite par le solaire, par exemple, puisse être pas cher du tout et durable. Donc on en sortira. C'est une perspective. On ne peut pas l'accélérer par des décisions politique, démagogique ou des accords électoraux entre partis. C'est une réalité physique, scientifique. Mais on sortira un jour. Sur le plan du nucléaire militaire, c'est aucun dirigeant au monde ne renoncera à l'arme nucléaire, sauf s'il était sûr que tous les autres vont renoncer. Et encore, il faudrait être sûr que dans 20 ans, 30 ans, le monde sera tellement sûr qu'on ne pourra plus se passer de la dissuasion. C'est souhaitable, naturellement. Mais aujourd'hui, moi, je ne vois pas un dirigeant américain, russe, chinois, même pas français, même si la pensée est plus flagellante, ou britannique, en tout cas pas israélien, ni indien, ni pakistanais, qui dira « je suis tellement sûr de ma région et de l'avenir que je renonce ».
Je vais vous interrompre aussi pour dire que je suis tout à fait d'accord et que je m'excuse pour tous mes collègues qui essayent d'utiliser leur influence avec des arguments contre la science, contre cette vérité.
Quitte justement...
Bon, donc, je termine d'une phrase. Pour ne pas désespérer ceux qui ont vraiment peur, sincèrement, et qui souhaitent le désarmement, je considère quand même qu'il y a un surarmement inutile, même en termes de dissuasion stratégique, et que les États-Unis et la Russie, pour commencer, pourraient réduire très 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 largement leur arsenal du tiers, la moitié... deux tiers, trois quarts, et là on arriverait à un très bas niveau de dissuasion maintenu, et on verrait ce qu'on fait compte tenu de l'état du monde. Donc je ne suis pas non plus pour ne rien faire, mais il faut l'inscrire dans une perspective historique et une chronologie raisonnable.
Je voulais juste vous contredire un tout petit peu, c'est-à-dire vous dire que le nucléaire, on n'en sortira jamais. Parce que vous allez en Bretagne, vous vous asseyez sur un bloc de granit, et vous avez du radon, et vous avez du nucléaire qui vous transperce la peau. Donc le nucléaire, nous n'en sortirons jamais.
On ne sortira pas de la radioactivité.
Ah bah c'est du nucléaire.
Mais on sortira peut-être de l'arme nucléaire, ou de la dissuasion, ou des centrales nucléaires. Mais il restera en effet la radioactivité en Bretagne. Bon.
Merci beaucoup pour ce débat sur le nucléaire. Maintenant, nous sommes des chanceux aujourd'hui. Quitte, je vais vous demander de vous diriger vers le piano. Et vous allez répondre en fait à une question avec vos mots et vos doigts. Quelles sont, d'après vous, les principales œuvres du répertoire qui furent d'immenses progrès pour la musique? Je vous demande de vous déplacer et vous allez nous répondre en musique. On
des
a
changements,
la chance.
Pas du progrès.
Et après, on reprendra quelques questions. Hein. J'ai vu des doigts.
Oui, excusez-moi. Donc, comme j'ai déjà dit, c'est une question très, très difficile. Il est déjà très difficile de définir le progrès dans la musique. Et quand je disais tout à l'heure que ça existe parce que le passé ne se perd jamais, c'est pour dire que, en fait, il y a des changements ou des œuvres qui ont été à la fois très influentes et pas seulement influentes, mais aussi innovatives. Et peut-être on peut définir cela comme du progrès. Alors, je vais donner des exemples un peu techniques tout autour du thème de l'invention de tonalité et de sa dissolution. Donc, vous savez peut-être que dans la musique classique, entre le XVIe et le XIXe siècle, il y avait cette notion de l'harmonie, comment dire, de l'harmonie fonctionnelle. C'est-à-dire, quand on dit qu'un morceau est en mi bémol majeur, c'est parce qu'il existe cette notion de mi bémol majeur qui est de l'harmonie fonctionnelle. Donc, je vais vous jouer maintenant un petit bout de morceau qui a été composé avant cette tonalité. C'est la ballade de Toute fleur de Guillaume de Machaut. Je vais vous donner maintenant un exemple d'une musique qui a été écrite une génération après, quand on a déjà commencé à découvrir les possibilités de l'harmonie, de l'harmonie triadique, c'est-à-dire quand on a des accords de trois notes qui sont en harmonie l'une avec l'autre. Bien sûr, on n'a pas le temps pour écouter les morceaux entiers. J'ai choisi des exemples peut-être un peu provocatifs parce que ce n'est pas de la musique qu'on connaît de façon générale. Et maintenant, je vais passer à la dissolution de la tonalité avec une œuvre de Franz Liszt. Et pourquoi est-ce que la tonalité a cessé d'exister? C'est une question aussi de progrès. Parce que les musiciens, les compositeurs ont constaté qu'en écrivant dans un style sans tonalité, on avait des possibilités qui n'existaient pas avant. Et dans un premier temps, ces possibilités étaient plutôt négatives. C'est-à-dire, on exprimait avec de la musique atonale des choses qui n'ont pas vraiment de rapport avec la beauté, mais c'est plutôt des rapports avec la destruction de la beauté.
Thank you.
venir. J'ai un exemple qui démontre l'inverse de ce que je viens de dire. Et c'est une étude de Georges Ligeti, le compositeur hongrois, qui a trouvé un moyen d'utiliser ce langage atonal pour exprimer quelque chose de très positif. Le morceau s'appelle Arc-en-ciel. Alors, ce sont des changements que je vous ai montrés. Je pense que tout le monde peut aussi entendre que le style de ce dernier morceau n'a rien à voir du tout avec le style de Guillaume de Machaut. Mais après, je me pose la question, est-ce que c'est du progrès? Et moi, je répondrai oui. Parce que pour les compositeurs, il y a toujours quelque chose qui est la source de la motivation pour l'innovation. Et pour moi, en tant que compositeur, il y a deux choses. La première chose, c'est la représentation de l'environnement. Parce que je trouve que l'art, et même la musique classique, a la possibilité, et même peut-être, je dirais, l'obligation, d'être une réflexion de ce qu'on a vécu en tant que compositeur, en tant qu'être humain. Et l'autre, c'est bien sûr comment est-ce qu'on se représente en considérant son environnement, pas seulement, mais aussi en considérant les émotions, qui, bien sûr, ont été les mêmes émotions qui ont été exprimées par les compositeurs d'avant. Mais il y a toujours une nouvelle façon exprimer ses émotions qui restent à trouver.
Merci beaucoup, Keith Armstrong. On peut l'applaudir. On va avoir le temps de reprendre quelques questions. Le monsieur en veste bleue, peut-être devant, qui demande la parole, et puis derrière après.
Oui.
Alors bonjour, ça va être difficile de parler après ça, de poser ma question. En tout cas, je voulais d'abord vous remercier pour ce débat qui a été très enrichissant. Et la question, je vais y venir tout de suite, c'est la suivante. Tout à l'heure, Monsieur Védrine, qui est parti, c'est-à-dire qui nous a quittés, mais qui est juste parti, disait que c'était le pouvoir politique qui devait fixer les règles, puisque bon, faut bien que quelqu'un fixe les règles pour réguler le progrès. Moi, mon constat, c'est le suivant, c'est que plutôt que de considérer le progrès en lui-même, je vais le dériver, puisque le progrès, c'est un mouvement, j'aimerais considérer l'accélération du progrès. Et aujourd'hui, on peut bien dire que le progrès ne va pas à la même vitesse que celle à laquelle il allait dans l'Antiquité, ou même au Moyen-Âge. Donc le progrès, j'ai l'impression que cette vitesse grandissante fait qu'on le contrôle de moins en moins. Les problématiques posées par l'intelligence artificielle notamment en finance, avec le flash crash en 2011, sont assez terribles. Et donc, face à ça, on a le politique qui évolue, certes, mais qui évolue franchement pas très vite. Et j'ai l'impression que on a d'un côté cette accélération du progrès qui est très forte, et une accélération du progrès politique, du progrès technologique, je parlais, et une accélération du progrès politique qui est plutôt faible, et donc un hiatus finalement grandissant entre les deux. Et ma question, c'est, d'après vous, est-ce que c'est possible de réduire ce hiatus? Et si oui, comment?
Répondez-lui.
Merci pour la question, parce qu'elle touche du doigt évidemment les enjeux sociétaux contemporains auxquels l'humanité est confrontée et on peut y voir évidemment de sérieux dangers. En tout cas, une réflexion à mener, évidemment, de la plus haute importance. Le cadre politique, c'est une chose. Alors, je reviens encore au risque de me répéter, mais ne cherchons pas à ralentir le progrès de la connaissance, mais celui de l'application de cette connaissance et ce qu'on peut appeler la technoscience, qui, évidemment, elle, a besoin d'un cadre rigoureux. Et c'est ce qu'on peut appeler l'éthique, mais rappelons-nous que l'éthique, en fait, c'est une hiérarchisation des valeurs que l'on se fait de l'homme à un instant donné. Rappelez-vous, peut-être il y a 20 ans, on n'aurait pas imaginé qu'un humain puisse avoir un dispositif électronique à la place de son cœur. Pas acceptable. Quand le premier patient qui a porté ce cœur karma a survécu quelques heures, on a tous frappé des mains en se disant « super ». Ce qui n'était pas acceptable est devenu acceptable. Et puis, compte tenu de l'amélioration technologique du dispositif, je pense qu'on va tous le souhaiter à un moment donné de notre vie, quand on sera plus ou moins concerné. Donc, voyez que la notion d'éthique est appelée à être dynamique, puisque vous aviez aussi pris le point de la définition du progrès comme étant un mouvement dynamique, qui donc nécessite un retour en permanence dans le débat, et non pas de stéréotypes ou de préjugés, mais d'une avancée des idées et de cette fameuse hiérarchisation des valeurs qu'on se fait de l'humain. Maintenant, on parle du politique, mais il y a d'autres mouvements qui sont déjà engrangés sur la planète, qui sont des mouvements communautaires qui consistent à mettre ce savoir à la disposition de tout le monde. C'est les tendances à l'open source, à l'open data. On met ces données en commun et tout le monde peut en bénéficier. Et vous avez, c'est assez éloquent, parce que vous avez les fondateurs qui ont découvert cette puce Intel, Paul Allen d'un côté, qui monte un institut et qui dit, moi en fait, je vais donc devenir un philanthropreneur, je vais finalement avoir une aventure qui consiste à mettre la connaissance au service de tout le monde. Et puis vous avez Raymond Kurzweil qui lui va dire finalement, utilisons le progrès technologique, non pas pour connaître, mais plutôt pour améliorer la qualité de vie sur Terre. Donc ce sont deux positions qui sont en fait actuellement en opposition, parce qu'on est en dehors d'un cadre, de nouveau, mais je trouve, et ça c'est peut-être mon optimisme un peu exagéré, que la réaction communautaire qui est dans ces fameuses blockchains, tout ce que vous connaissez dans ces démarches communautaires de partage, sont vraiment impressionnantes. Moi je peux vous dire que dans mon laboratoire, on fait des économies pour le citoyen qui paye ses impôts, parce que des fois on se pose des questions, et au lieu de faire l'expérience nous-mêmes, on va accéder à ces banques de données que M. Paul Allen nous met en accès libre et gratuit. Et finalement, au lieu de faire des expériences qui auraient coûté des milliers d'euros avec des années probablement d'engagement de chercheurs, eh bien on gagne du temps, parce que ces données, elles sont là, elles sont mises à la communauté et au service de l'humanité. Donc voilà un cadre possible, en tout cas, qu'on peut imaginer.
Je partage votre optimisme, mais je pense que c'est aussi très intéressant ce qu'on discutait tout à l'heure avant de venir ici, que la technologie a aussi la possibilité de former ou de faire développer nos cerveaux d'une façon différente. Et ça pour revenir un peu au plan humain. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, si on a maintenant les possibilités de déléguer des tâches aux appareils électroniques, on a forcément aussi la possibilité de nous consacrer à des choses plus intéressantes. Ce n'est plus la mémoire d'information qui doit être entraînée, c'est la mémoire des processus.
Alors, ça, c'est, on touche du doigt ce que les philosophes ont qualifié de processus d'externalisation. Il y a eu une externalisation du squelette, et le propulseur du javelot chez Néandertal et d'autres était une forme d'externalisation du squelette. Il y a eu ensuite l'externalisation des muscles avec l'invention de la machine, Et évidemment, nous sommes dans cette troisième révolution d'externalisation qui est de la pensée, de l'activité, des fonctions cognitives que l'on a externalisées et que l'on délègue à des objets, à des tablettes, au fait que mon portable va numériser les numéros de mes amis. Donc je n'ai plus à me soucier d'apprendre par cœur les numéros de téléphone. Donc c'est effectivement le cerveau et l'humain, je dirais, est modifié par les outils qu'il crée. Ça, on peut y voir ici une référence au concept d'Homo Faber d'Anna Arendt, où l'idée que l'humain produit des outils et que ces outils changent l'écosystème. Ce qui est assez extraordinaire pour le cerveau, c'est que ça va plus loin, c'est que de la création de ces outils que l'on fait avec notre cerveau, l'usage de ces outils change en retour notre cerveau. Et que l'on voit effectivement des stratégies être mises en place où notre mémoire sémantique va probablement diminuer. C'est plus la peine d'apprendre 1515 Marignan, où que je sois, je tapote et j'ai la réponse. En revanche, j'ai d'autres formes de mémoire qui sont des mémoires de process, procédurales par exemple, parce que où que je sois, j'aurai accès à une tablette et que, par contre, devant ce problème-là, j'ai développé une stratégie. J'ai plutôt intérêt à retenir la stratégie que la réponse. Donc effectivement, l'humain est en train d'être modifié et taillé par les outils qu'il produit lui-même.
Emmanuel Todd, ces outils sont toujours bien bons ?
Non, mais c'est sur ces modifications du cerveau, je pense, enfin, moi c'est une hypothèse, hein, mais qu'on a un peu un temps de retard. C'est-à-dire, je reviens sur cette notion d'alphabétisation qu'on perçoit. Bon, on a tous été alphabétisés, on est passé par l'école, en fait on a perdu le souvenir de ce que c'était que des populations non alphabétisées. Mais pour ce qui me concerne, pour avoir observé dans l'histoire ce que nous dit l'histoire du comportement des gens, on voit les gens changer quand ils savent lire et écrire. On voit des mécanismes d'introversion de la personnalité changer. Pour ce qui me concerne, je suis convaincu que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture et la pratique à haute dose de la lecture transforme le cerveau.
Il ne faut pas tout sous-traiter comme ça.
C'est-à-dire que ben, peut-être c'est un père qui parle et qui a vu plusieurs enfants grandir et devenir intelligents les uns après les autres. Mais je suis convaincu que... Vous savez, souvent on pense que c'est les élèves intelligents qui apprennent bien à lire et écrire. Moi, au fond de moi-même, je suis convaincu que c'est le fait d'apprendre à lire et écrire, de lire beaucoup, qui rend intelligent. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut expliquer la capacité des classes bourgeoises à survivre dans la compétition scolaire, d'une certaine façon. Il n'y a pas que ça, mais ça existe. Donc, je pense que c'est impressionnant comme l'apprentissage. C'est une technique à l'origine, l'écriture et la lecture. C'est une technique, hein, qui a des types géniaux. En deux, trois endroits du globe ont inventé cette chose. Ça, c'est impressionnant de voir comment ça a altéré le comportement des gens. Donc vous êtes dans une population analphabète, vous avez des gens sympas, un peu passifs, heureux de vivre, vous alphabétisez tout le monde, vous avez des gens plus intelligents, une proportion de névrosés considérable. Vous voyez ? Et donc en fait ça a commencé, ça fait longtemps que ça a commencé en fait, la modification du cerveau. C'est pour ça que je suis même pas... L'homme est stable, j'étais assez d'accord avec Védrine quand il était pessimiste sur l'évolution des capacités morales de l'humanité. C'est vrai que quand on regarde l'histoire humaine, on n'a pas l'impression d'une grosse amélioration avec le temps, hein. C'est pour ça que le nazisme nous a donné la réponse ultime, l'avertissement final. Mais je ne pense pas qu'il faille surestimer la notion de stabilité de l'homme en tant qu'espèce et du cerveau en tant que, j'allais dire bizarrement, institution. C'est ça qui me venait à l'esprit. Et en ce qui concerne tous les risques, bon, les risques, je suis très... Moi, je n'aime pas, on en avait parlé, je n'aime pas l'expression « principe de précaution ». J'aime bien l'idée de précaution. Il faut être prudent, c'est la sagesse. Mais l'idée d'en faire un principe, ça suggère qu'il va falloir, il y a des moments où il faut arrêter, en fait, qu'il y a des voies qu'il ne faut pas explorer. Et ma conviction d'historien et de philosophe de comptoir, c'est que, au fond, au final, les gens qui interdisent l'expérimentation seront toujours vaincus. Donc certaines sociétés seront capables de s'arrêter en interdisant.
toute l'Église catholique a mis toute l'Europe du Sud en état de stagnation éducative en considérant que les types qui apprenaient à lire étaient virtuellement des hérétiques. C'est comme ça qu'on explique la façon dont l'Italie, qui était en tête, a été complètement... Donc on peut simplement... L'Europe du Nord a pris sa place. Et je crois que la raison fondamentale pour laquelle on n'arrêtera jamais l'expérimentation de l'homme sur soi-même, au-delà des précautions qu'il faut prendre, c'est qu'en fait, la condition humaine, telle qu'elle est juste insupportable. Naître, vieillir et mourir, c'est juste horrible au fond. Et donc il y aura toujours un effort pour essayer d'aller ailleurs. Voilà.
Alors, réponse rapide de Pierre Mariedo et dernière question du public. Après.
Elle est très très rapide pour dire que je suis évidemment complètement en accord avec l'idée que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture nous permet d'être meilleur, mais c'est tout simplement, il faut le savoir, que quand on apprend à un enfant de lire et d'écrire, on est déjà un neuro-hacker, c'est-à-dire qu'on pirate des circuits qui Dieu et la nature avaient défini leur fonctionnalité, reconnaître des formes du Y dans une branche, etc. Et de dire, finalement, ça va servir aussi à autre chose. Donc on pirate, on capte, donc c'est le cerveau augmenté. Le cerveau augmenté vient naturellement avec l'éducation. Et pour répondre et faire écho à la pensée rousseauiste, l'homme est perfectible. Erasmus nous dit, on ne naît pas humain, on le devient. C'est-à-dire que cette trajectoire-là, c'est la culture, c'est l'éducation, parce que le cerveau ne demande qu'une seule chose, c'est d'être taillé sur mesure par le groupe.
Une dernière question.
C'est peut-être plus un commentaire. Isabelle Grenier, astrophysicienne. Je voulais commenter sur le besoin d'éducation qui est peut-être en réponse à votre commentaire. Il y a une accélération très brutale au cours du XXe siècle de la dose de connaissances et de la pertinence des connaissances pour les transformer en technologie. Et donc le mot peur du progrès, pour moi, vient de quelque chose qui est un dérapage entre la culture de l'homme moyen ou de la femme moyenne et le fait que les connaissances avancent très vite. Donc il y a un problème énorme qui rejoint ce problème d'éducation et qui est fondamental, mais je sens qu'il y a un décrochement très net parce qu'on a des créationnistes qui reviennent, on a des gens qui refusent les vaccins, donc des tonnes de maladies qui reviennent. On a partout un retour en arrière qui n'est pas dû au fait que, parce que là ce sont dans des sociétés alphabétisées, je suis désolée pour Emmanuel Todd, donc le problème est qu'il y a un retour cyclique périodique et que ce décrochement entre l'accélération brutale des connaissances et le côté que malheureusement les médias voient que le côté négatif du nucléaire et pas le fait que ça détecte aussi les métastases en médecine ou que vous tuez les tumeurs, que quand on fait des lanceurs spatiaux, Reagan voulait le transformer en Star Wars, grâce aux scientifiques, on a aussi regardé Vénus et Mars, et c'est pour ça que la COP 21 et la COP 22 aujourd'hui s'intéressent à l'avenir de la Terre, parce qu'on a montré que les autres planètes peuvent faire évoluer méchamment leur atmosphère, soit vers un frigidaire, soit vers un enfer, etc. Tous ces exemples-là sont nets, mais il y a un problème profond derrière, c'est que l'homme de la rue ou la femme de la rue ne connaissent pas ces avancées et ne peuvent pas juger sainement du coup de l'éthique qui doit y être associée et qui serait beaucoup plus facile à gérer si beaucoup de gens s'en prenaient le taureau par les cornes et pas simplement quelques comités de spécialistes. Or, ça veut dire beaucoup vulgariser la science, beaucoup diffuser la science. Et j'aimerais savoir, dommage que monsieur Védrine est parti parce qu'il représentait les instances politiques, comment se fait-il qu'aujourd'hui la science ne soit plus aussi diffusée et aussi vulgarisée pour que chacun puisse se l'approprier?
Alors, qui veut répondre sur la vulgarisation de la science? Peut-être Madame Bréchignac ou Monsieur Yedo? Madame Bréchignac. Et ce sera la conclusion au passage, s'il vous plaît.
Oui, vous avez parfaitement raison sur ce que vous venez de dire. On a tous fait le constat. La vulgarisation de la science, j'aime pas ce mot vulgarisation parce qu'il y a un côté vulgaire et ça me plaît pas du tout. Mais je dirais la transmission des connaissances, enfin vraiment le fait de partager, c'est un partage des connaissances. C'est ça qui est extrêmement important et c'est ça qu'il faut faire passer. parce que on en a tous besoin, et donc ce partage, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous essayons tous de faire, c'est ce que mais si vous voulez, ce qui est un peu dommage, c'est de voir que aujourd'hui on a la connaissance absolument partout. Elle est distribuée sur le net, vous pouvez la voir comme vous voulez, mais il n'y a pas de sens, de connaissances qui soient triées. C'est-à-dire qu'en fait, le nouveau mode qu'on est en train de mettre dans notre cerveau, et ça, c'est pas une très bonne idée, c'est d'aller chercher par des mots-clés, et les mots-clés ne vont pas trier cette connaissance. Et quand vous avez beaucoup trop de connaissances, beaucoup trop d'informations, vous êtes sous une masse d'informations, puis vous ne faites plus rien, parce que c'est comme quand vous avez une tâche gigantesque à faire, vous ne savez pas par où commencer. Donc je crois que là, il y a un très gros effort à faire, qu'on essaye à petite échelle, ici à l'Académie, de faire, c'est-à-dire d'avoir de la connaissance qui soit triée, qui permette aux gens de chercher plutôt dans telle ou telle direction, et d'arriver à avoir une synthèse, parce que ce qui était extraordinaire dans notre cerveau, c'est qu'on est capable, et ça c'est un des avantages aussi des mathématiques, de faire une synthèse, ça c'est pas vous qui l'avez, de faire une synthèse très forte de toute cette connaissance, c'est-à-dire que quand vous pouvez la mettre sous forme théorique, tout d'un coup toute une masse de connaissances, vous la ramenez en une petite proportion, et ça vous permet d'avancer plus vite. Voilà, donc je crois que la conclusion, s'il fallait en donner une, c'est éducation, transmission des connaissances et partage. Et surtout, partage.
Emmanuel Todd.
Alors, ayant fait l'optimiste pendant toute la séance, c'est un phénomène d'équilibrage naturel, donc je voudrais terminer en dire quelles sont mes vraies inquiétudes, moi, concernant les connaissances, l'insuffisance de formation. Alors, mes inquiétudes, moi, ne concernent pas du tout les gens qui ont une éducation primaire alphabétisée. Mes inquiétudes actuelles concernent les élites. En fait, les élites du monde occidental, des gens qui ont fait des études supérieures, très supérieures, absolument supérieures, et qui ont mis en place un système économique et qui gère un système économique qui a fini par aboutir, après une longue évolution, à des hausses de mortalité dans un pays comme les États-Unis. C'est quand même tout à fait stupéfiant. Puisque, bien entendu, pour le sens commun, vous voyez, par exemple, il y avait eu une pétition de 200 économistes des meilleures universités américaines qui avait appelé à voter contre Donald Trump, mais la pétition était une défense du libre-échange, dont on sait qu'il a détruit l'industrie américaine, mis la population en état d'insécurité, provoqué donc suicide. Maintenant, il y a une très belle étude qui vient de sortir, le débat continue, qui établit au niveau des comtés américains l'effet sur la hausse de la mortalité de l'ouverture aux échanges depuis l'accentuation des échanges avec la Chine. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, si on veut être inquiet, je veux dire que l'urgence, pour moi, ça n'est pas les masses populistes, comme on dit, le peuple qui prétend être le peuple, ou qui n'est pas suffisamment éduqué, c'est qu'est-ce qui se passe en haut de cette structure sociale où des groupes dirigeants prétendent qu'un système économique évidemment dévastateur et qui met toutes les populations du monde avancé en état d'insécurité, je veux dire, se considère comme raisonnable. Donc je pense qu'il y a un problème urgent à traiter au niveau de l'éducation supérieure. Pour moi, le déficit est là. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans une conférence que j'ai faite à Nantes dans une business school là, au NCA. C'est pour revenir sur ce problème des créationnistes.
Rapidement, parce que oui, sinon les autres n'auront pas le temps.
Ce problème des créationnistes. Bon, évidemment, moi je suis tout à fait darwinien en un sens général. J'aime beaucoup l'origine des espèces. Voilà, et le créationnisme est absurde. Mais personnellement, je trouve que ces économistes surdiplômés qui affirment contre l'évidence du monde concret et sensible que le libre-échange est bon sont dans une posture intellectuelle et morale beaucoup plus grave que les créationnistes. Je veux dire, qui eux parlent d'un monde qui n'existe pas fondamentalement. Vous voyez, donc j'ai mes inquiétudes.
Merci beaucoup. Pierre-Marie Yédo, le mot de la fin.
En fait, je vais faire une toute petite thérapie à M. Todd et le rassurer. Le rassurer parce que ce dont il parle, et je partage complètement son bilan, est un temps révolu. Le temps des élites, le temps des experts. Aujourd'hui, grâce au digital, on ne peut rien comprendre à quelque chose. Mais ce soir, alors je suis d'accord, nous sommes aussi menacés devant la société de l'information. Le danger, c'est l'infobésité. Je fais quoi avec tout ce que je sais. Mais pour moi, les filtres se sont mis en route et on a quitté la société de l'information pour aller dans une société de la recommandation. Voilà, il y a des gens qui vont digérer toute cette information et nous la donner, nous la distiller. Donc je crois qu'on peut être optimiste parce que les outils donc, que produit l'humanité, ces outils-là, vont nous aider à être dans le partage, dans ce qu'il est évidemment dans tout ce qu'on a dit de prioritaire, c'est-à-dire le partage et prendre soin de l'autre. Eh bien, les outils que l'on a aujourd'hui à disposition nous permettent de contrecarrer ce temps féodal dont il a été fait référence. Et je partage complètement le pessimisme du passé et je suis assez optimiste pour le futur.
José Milano. Non, monsieur Todd, on n'a plus le temps, désolé.
Alors, on a évoqué l'éducation et l'évolution nécessaire des systèmes politiques. Il y a aussi une réflexion, si on veut élargir un petit peu le débat pour cet après-midi, autour des dispositifs d'apprentissage collectif, autour des communautés, de la fixation des standards et de la prévention. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses que l'on peut savoir, que l'on peut mettre en œuvre dans les sociétés et qui permettent de minimiser les facteurs de risque et en tout cas de collectivement apprendre aux risques. Voyons aussi qu'il y a des communautés aujourd'hui scientifiques dans le monde entier, politiques, qui regardent ce qui se passe dans les différents pays. Cette ouverture-là nous permet d'intégrer dans la réalité du présent occidental, chez nous, des choses qui se sont passées ailleurs et qui nous permettent d'apprendre collectivement. Et ça, c'est une piste que je crois aussi qu'il faut rendre, qu'il faut mettre un petit peu plus en avant dans les solutions possibles à la question de l'évolution du progrès et de son, non pas de sa maîtrise, mais effectivement de comment faire en sorte que ce progrès améliore effectivement, comme le voulait Condorcet, la condition humaine.
Merci. Kit Armstrong, le mot de la fin.
Même si je ne suis plus dans un métier scientifique, j'ai eu la chance de pouvoir suivre de la formation en chimie, en physique, surtout en mathématiques. Et c'était une formation universitaire. Et j'ai appris beaucoup de choses très importantes qui me touchent toujours. La première chose, c'est que à quel point je ne sais rien. La deuxième, c'est bien sûr une grande admiration pour l'humanité et pour son amour de la connaissance. Et finalement, j'ai constaté aussi que c'est quelque chose que tout le monde peut avoir et que tout le monde doit avoir.
Merci voilà. Pour cette note d'optimisme pour la fin.